Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin au micro de Chrétien d'Orient, je suis avec Yılmaz Turan. Bonjour.
Bonjour.
Nous allons revenir en Turquie, une région que nous avons déjà explorée ensemble au cours d'un entretien, je crois, qu'il y a eu il y a quelques mois, dans cette région du sud-est anatolien, près de la frontière syrienne. Je veux parler de la province monastique du Tur Abdin, soit, en syriaque, la montagne des serviteurs de Dieu, une terre d'histoire et de culture syriaque. Yılmaz Turan, pardon, vous êtes historien, chercheur indépendant, et vous êtes venu nous rappeler, en cette année de centenaire du génocide arménien, que d'autres communautés chrétiennes ont aussi été victimes de ce cyclone de violence en 1915. On l'oublie souvent, effectivement, qu'à côté des Arméniens, beaucoup d'autres communautés chrétiennes ont été victimes des mêmes syndromes de violence, dont la communauté de langue syriaque du sud-est de la Turquie. Alors pour nous faire entrer dans cette histoire qui s'appelle le Seyfo, alors vous allez nous expliquer aussi un petit peu plus tard ce que ce terme veut dire, vous avez choisi un guide, un personnage qui est un notable de village, Gallo Chabo, originaire de Midyat, je crois, ou de Aynwardo, vous allez nous dire aussi, et qui a été arrêté à la mi-juin 1915, et qui a été le témoin de cette tourmente. Alors je crois qu'il s'agit de l'un des rares témoignages d'origine syriaque.
Oui, c'est un rare témoignage écrit, parce qu'on dispose d'une certaine, de beaucoup d'éléments tirés de la mémoire collective. Mais c'est un des rares témoignages écrits, c'est un poème qu'il a lui-même écrit, à propos des événements qu'il a subis en 1915. Un poème écrit en syriaque. C'est ce qui explique peut-être pourquoi il n'a pas été aussi diffusé. Et donc il raconte les événements, comment lui-même a été pris dans la tourmente. Donc comme vous l'avez bien signalé, dans son récit même, dans le récit qu'il déploie dans son poème, il signale qu'en fait il a été arrêté le 10 juin dans son village à Aywardo, alors qu'il s'apprêtait à aller à la chasse. Donc il est arrêté par trois gendarmes qui l'emmènent immédiatement à Midyat pour l'emprisonner. Et à ce moment-là, donc, il est en prison et il ne sait pas pour quelle raison. Alors, on voit ici, en fait, une des méthodes utilisées au moment des événements, durant l'été 1915, ce sont les perquisitions, qui sont en fait justifiées légalement par des décrets de réquisition. Ces décrets de réquisition ont été arrêtés en avril-mai 1915, et après, ils sont déclinés dans toutes les provinces. Et donc, c'est la méthode habituelle pour arrêter tous les notables et les mettre en prison.
Alors, expliquez-nous un petit peu, quand on dit notable, qu'est-ce que ça recoupe finalement comme réalité à cette époque ?
Alors ici, c'est un notable qui est lettré, en syriaque, et qui, en même temps, est le chef, on va dire, d'un lignage important dans son village et qui a des terres et qui souvent peut avoir des activités commerciales sans doute immédiates. Donc Gallo Chabo est certainement un grand notable puisque justement il est arrêté dans son village même. C'est-à-dire qu'il ne fait pas partie des notables qui sont arrêtés immédiates. Mais on va le rechercher à Aywardo. Donc c'est en fonction des décrets de... Et ces perquisitions sont liées à des décrets de réquisition des armes. C'est la justification pour mener les rafles, en fait.
Donc on veut savoir si les chrétiens possèdent des armes.
Voilà. Et éventuellement, il s'agit aussi de forger des preuves. Par exemple, il raconte que quand il est en prison, on le questionne sur un certain Krikur, un Arménien, dont il ignore tout. Donc il ne sait rien. Par d'autres sources, j'ai appris, en fait, bon, il parle de ce Krikur, mais il n'en dit rien. Et donc on ne connaît pas la raison de son arrestation. Il ne la dit pas. Mais moi, je peux affirmer. En fait, on identifie, en fait, avec d'autres sources, un certain Galabet Efendi, qui est le moudir de la ville de Kerbouran.
Le moudir, il faut expliquer.
Alors, le moudir, c'est, au niveau de la hiérarchie des autorités officielles, c'est le poste en dessous de Khamenkram. Le Khamenkram, c'est, on va dire, au niveau de sous-préfet. Donc, c'est la personne qui est immédiatement sous l'ordre du sous-préfet et qui est affectée à une bourgade. Ici, c'est une bourgade, une localité syriaque qui est de Kerbouran, qui est au nord-est du Tour Abdin et qui est assez importante et qui est un centre commercial pour les villages près de la rive du Tigre qui est tout près et où est justement le village de Çelik.
Donc un personnage qui appartient à l'administration ottomane.
Ce Garabet Efendi.
Alors, qu'est-ce qui se passe après ?
Et justement, on lui demande de... en fait, cette personne, on apprend après coup qu'elle a été étranglée dans la prison de Midyat. Et donc, maintenant, on peut plus ou moins reconstituer ce qui s'est passé. C'est que ce que les tertionnaires veulent obtenir, en fait, c'est les preuves d'un complot qui est dirigé par un Arménien à Kerbouran et qui aurait provoqué la révolte de Kerbouran, qui a justifié le massacre de la ville de Kerbouran, qui justement a été attaquée à ce moment-là. Et c'est d'établir un lien avec Gallo Chabo, qui est un notable de Midyat, et donc c'est de dire que ces personnes préparent une sédition à Midyat. Donc il s'agit de préparer la répression et l'assaut sur Midyat, en fait.
Donc c'est de trouver, en fait, des éléments de preuve, quitte à les inventer, comme vous le montrez, donc par le récit de ce personnage, de ce notable du village d'Ain Wardo, un moyen d'une éventuelle répression, d'une répression à venir, donc qui permettrait de continuer ce que l'on appelle maintenant le génocide arménien, ou le génocide des chrétiens, de l'étendre à d'autres communautés chrétiennes, dont à ces communautés syriaques.
Oui, voilà.
Parce que jusque-là, la région de Tour Abdin n'est pas touchée, en fait, par les déportations.
Eh bien, justement, les déportations ne touchent pas les provinces, certaines provinces orientales ne sont pas touchées par des déportations, mais par des massacres sur place. Et donc, c'est le cas au Tour Abdin. Et ces massacres sur place, donc, les déportations, donc, touchent également les Arméniens. Donc, il n'y a pas de déportation ni des Arméniens, ni des Syriaques dans ces provinces que sont les provinces de Van, de Bitlis et de Diyarbakır. Donc, il n'y a pas de différence de méthode, puisque les déportations sont faites pour d'autres provinces.
Est-ce que je peux vous poser une question, Yılmaz Turan, pour nous extraire un petit peu des faits? D'une manière générale, savez-vous pourquoi, après la fin de la guerre, jusqu'à nos jours, les études sur Seyfo, donc sur ces massacres touchant les communautés syriaques, n'ont pas été suffisamment approfondies par rapport au génocide arménien?
Alors, c'est lié d'une part au problème des sources, puisque bon, si ce texte est en syriaque, et donc...
Ce texte est rare, hein, faut le préciser. Texte, voilà, vous êtes l'un des premiers à travailler dessus.
Oui, bon, mais il est connu. Au milieu pour les syriaques, il est connu, mais il n'est pas identifié comme un... Et donc, les syriaques ont une connaissance des faits, mais c'est une connaissance qui est communautaire et qui n'est pas, en fait, ouverte, qui n'est pas, ouvert à l'extérieur. C'est dans les buts internes que les gens se remémorent les événements du Seyfo.
Une mémoire familiale qui se transmet.
Voilà, qui s'est transmis. L'autre élément, c'est que ce sont les Arméniens qui sont la majorité des victimes. Et ce sont elles qui, en fait, se sont mobilisées pour une reconnaissance internationale de cet événement, avec les recherches, ce qui a pu, susciter un écho, disons, aujourd'hui, et qui a eu des répercussions aujourd'hui. Mais voilà comment je peux expliquer cette méconnaissance, on va dire.
Alors revenons sur le texte dont vous nous parlez, qui est un texte, je le rappelle pour nos auditeurs, très important parce que rare. Sait-on quand il a été écrit? C'est-à-dire que donc ce personnage a survécu à la guerre, apparemment.
Oui, il a été écrit juste après, soit dans les années 20 au Tour Abdin, soit en Syrie, au moment où il s'est réfugié, après 1925.
Et après son arrestation, est-ce qu'on connaît la suite de l'histoire?
Oui, parce qu'en fait, alors il raconte que, donc à partir du 11 juillet, les habitants...
1915.
Donc c'est à partir du 11 juillet que les Syriaques de la ville, finalement, n'obéissent plus aux ordres des autorités
ottomanes,
et qu'ils désobéissent. Et le 19, en fait, les gendarmes auxquels se joignent une partie des tribus kurdes de la région, des tribus importantes comme les Dekchouli ou les Mhalmoye ou les Omelian, prennent d'assaut les quartiers est de la ville. Et les Syriaques répondent parce qu'ils ont des fusils. Et ce qui va arriver, c'est que à Midyat, Midyat va recevoir des renforts du village de Aywardo, du village justement dont est originaire Gallo Chabo.
Alors dites-nous un petit peu la configuration des lieux. Ce village est loin ou pas de cette Midyat, qui est une petite capitale, je crois.
Alors Midyat, c'est une ville de 7000 habitants. Elle est au centre du plateau du Tour Abdin, et Aywardo est à une heure de marche, moins d'une heure de marche, à l'est. Et c'est le village le plus proche. Donc, Aywardo lui-même est au centre du plateau. Donc, c'est la même position géographique. C'est ce qui explique pourquoi des gens de Aywardo peuvent venir apporter leur aide. Et donc, ce sont des gens, des guerriers, une vingtaine de guerriers, envoyés des combattants, envoyés de Aywardo, qui viennent justement le libérer de prison au moment des faits. Et c'est ce qui lui sauve la vie. Et donc, à partir de ce moment-là, il y aura 15 jours de combat entre des gens qui sont amidiates, mais qui sont aidés par des combattants de Aywardo et qui affrontent les assiégeants sous la conduite des autorités militaires et civiles ottomanes.
Les assiégeants qui sont des Kurdes de la région, finalement.
Alors, c'est des Kurdes de la région, mais des régions qui viennent d'un peu plus loin. Des régions de Mardin, du nord, et des tribus et d'une tribu importante qui est au nord de Tor Abdin. Donc ça fait un groupe, c'est-à-dire les principales tribus, mais pas celles qui dominent au Tor Abdin même, puisqu'elles ne participent pas en tant que telles aux événements, puisqu'en fait, la majorité de ses membres sont chrétiens, donc ils ne participent pas à ce moment-là.
Parce que nous sommes à une époque, donc, encore, où le Tor Abdin, donc, qui n'est pas très grand, est encore très majoritairement peuplé par des populations chrétiennes.
Tout dépend de l'échelle à laquelle on se situe. Dans l'espace où est Midyat et Tor Abdin, Midyat et Aywardo, la population est majoritairement chrétienne. Si on prend le pourtour, cela varie. Cela dépend de l'échelle, en fait.
Alors revenons sur la suite de l'histoire de ce personnage. Après cette libération, donc il est sauvé par cette petite troupe de combattants qui arrive d'Aywardo, donc à une heure de marche. Et après, il quitte le Tor Abdin.
Non, non. En fait, donc il y aura 2 semaines de combat à Midyat même. À la suite d'un assaut très important des forces assiégeantes, les Syriacs se replient à Aywardo, donc ce qui permet à une partie de la population de se sauver. Donc parmi les 7000 habitants, nous aurons beaucoup de gens qui vont pouvoir se réfugier et échapper au massacre, ce qui est assez important. Et donc le siège va se déplacer à Aywardo, qui est une place forte, qui est aussi difficile à prendre, qui est bien plus difficile à prendre que la ville même, puisqu'elle est située sur une colline assez espacée et qui est entourée de petits vallons. Et donc, il est très difficile d'organiser des camps pour assiéger le village. Et donc, les troupes qui sont là ne peuvent pas s'organiser correctement pour vaincre. Par ailleurs, les gens de Aywardo, comme ils ont fait à Midyat, ont organisé des expéditions de sauvetage avec des groupes armés pour ramener les villageois qui étaient assiégés, les chrétiens qui étaient assiégés dans leur village, dans les autres localités syriaques. Si bien qu'ils ont ramené beaucoup de population à Aywardo, donc ils sont à peu près 7 à 8 000, et donc ils ont beaucoup de combattants originaires de ces villages qui organisent, donc avec ces combattants, peut-être 1 millier de combattants, qui organisent la résistance face aux assiégeants ottomans kurdes et les forces de gendarmerie.
Pour reprendre un petit peu de distance avec cette histoire et voir une image plus d'ensemble, c'est un des très rares lieux, pour que nos auditeurs le comprennent bien, de résistance finalement d'un élément chrétien dans ce mouvement d'éradication générale qui couvre tout l'est de l'Anatolie. Est-ce que on connaît le Moussada, par exemple, pour les Arméniens. Donc c'est cette région qui est au sud-est de la Turquie maintenant, qui est l'ancien Sanjak d'Alexandrette. Est-ce que c'est similaire un petit peu cette résistance de Tor Abdin par rapport à d'autres résistances arméniennes?
Oui. Alors il y a des éléments de similarité. Mais bon, si on prend la date, on va dire le siège a duré 2 mois. Et si on prend le début du siège, qui est au début de septembre, qui s'est déroulé en septembre, et bien à cette époque, il n'y a pratiquement plus aucune résistance ailleurs. C'est-à-dire, le Moussada a été vaincu. La région, en fait, encore, où il y a une résistance encore plus forte que le Moussada, c'est la région du Sassoun et de Mouche, qui a subi les attaques au mois de juillet. Donc, fin juillet, celle-ci a été annihilée. Une partie des combattants arméniens ont pu, en fait, 6 à 7000 ont pu aller se réfugier auprès des forces russes qui étaient à une journée de marche. Et sinon, il y a le quartier de Urfa, le quartier arménien de Urfa, qui en septembre subit les attaques. Et
en donc, septembre 1915.
En septembre 1915. Donc, à part Urfa, c'est le seul lieu de résistance dans toute la Turquie effectif à cette époque, en septembre, c'est Otto Rabdin.
Donc, ce que vous nous dites, en fait, pour résumer la situation, c'est que ce siège d'Ainuardo, qui va durer, est le dernier lieu de résistance, finalement, d'une minorité chrétienne ou pas ?
La situation est plus compliquée que cela. Parce qu'en fait, il n'y a pas un seul lieu de résistance. On peut dire qu'il y a un triangle qui est constitué par trois places fortes où il y a le même phénomène qui se sont produits. Donc, je ne sais pas peine de revenir sur comment elles se sont constituées, mais elles forment un triangle qui est justement l'espace où sont... où les chrétiens sont majoritaires, en fait. Donc, c'est le Tulo d'Islo, où il y a un ensemble de villages qui ont un lieu de refuge, qui est le monastère de Molmerke, et qui permettent, eux, qui se défendent contre des assiégeants qui viennent de la plaine du sud, donc, et contre lesquels ils résistent assez facilement, plus facilement qu'à Ainuardo.
Donc, ça, c'est le sud de Torabdi. Voilà, donc, le premier point.
Et le deuxième point, c'est le... C'est-à-dire, il y a deux autres points qui sont sur la même ligne, c'est le village de Psolino et Azar, qui sont sur le côté est du plateau, qui est le plateau, le côté le plus accessible. Mais Azar et Psolino ont une certaine réputation qui fait que les populations kurdes locales hésitent à les attaquer. Et en fait, à Psolino, il n'y aura pas d'attaque, et à Azar, il y aura une attaque qui a été préparée par des tribus kurdes importantes, mais qui est facilement en fait déjouée par le village, par la bourgade d'Azar, puisqu'il y a à peu près 500 maisons à Azar, et qui a en même temps des réfugiés des autres villages.
Et le troisième point étant le village d'Ainuardo que vous
avez dit
au début.
Voilà, et cela ferme un triangle. Dans cet espace-là, les Ottomans ne maîtrisent pas cet espace. Donc, c'est un lieu où les différentes places fortes entre elles peuvent se ravitailler. Elles ont une liberté de mouvement et elles bénéficient en plus de l'appui de certains alliés kurdes. Donc, un Nara principal de la région, qui est un Nara Hevelkiye, qui est l'allié traditionnel des chrétiens, plus des habitants yézidis. Par exemple, il y a trois villages yézidis qui sont tout près du village de Ainuardo.
Donc, ce sont des Kurdes non musulmans.
Voilà.
Pré-musulmans, qui aident les chrétiens, je crois.
Voilà. Donc, par exemple, les trois villages yézidis qui sont près de Ainuardo, ils affichent une certaine neutralité, mais la nuit, ils peuvent aider aux opérations de ravitaillement, puisque le siège a duré 2 mois, et ils avaient besoin de ravitaillement en armes, et bon, de sel pour la nourriture, et d'autres choses de cette sorte.
Ce qui veut dire que la société kurde en elle-même est aussi beaucoup plus complexe qu'on veut bien l'imaginer. Il y a des tribus qui soutiennent les chrétiens, des tribus qui sont contre les chrétiens, et des yézidis qui participent aussi.
Oui, voilà. La tribu principale, c'est la tribu du Hevelki, qui est justement dans cet espace, dans ce triangle-là dont je vous ai parlé. C'est une tribu qui est composée à majorité de chrétiens. Donc cette tribu ne peut pas s'attaquer elle-même. Donc les chefs de cette tribu, vraiment les kurdes musulmans, a besoin de ses alliés chrétiens. Donc, il ne peut rien faire sans eux. Par contre, au nord du Torabdin, dans la région où il y a des tribus, on va dire des autres tribus, qui sont des tribus d'Ekchouriye, qui, en fait, a été dominée par les Hevelkiye, et la tribu qui a attaqué justement Kerbulan, qui est la tribu des Raman, qui est une tribu très puissante, qui a joué un rôle important dans les massacres de la province de Diyarbakır, parce que cette tribu des Raman qui a attaqué Kerbulan, c'est elle qui a commis le premier massacre contre le premier convoi des notables de la ville capitale de Diyarbakır, la capitale provinciale de Diyarbakır, un convoi de 700 personnes qu'ils ont massacré sur les rives du Tigre, justement près de Çelik, qui est à quelques heures de marche, à une heure de marche de Kerbulan.
Alors vous êtes originaire de cette région, de cette partie de Turquie. Vous êtes syriaque. Est-ce que vous avez vous-même dans votre famille une part de cette mémoire du Seyfo? Donc c'est l'année du sabre, 1915.
Oui. Alors en fait, oui. Donc en fait, au niveau de mon histoire familiale, mon arrière-grand-père qui est à ce moment-là vivant, a été lui, qui a un statut de quasi ara, donc un ara chrétien, de la tribu Hevelkiye. Mais il est en prison, il a été emprisonné à ce moment-là. Et donc, c'est son frère qui dirige, donc son frère, c'est son, le frère de mon arrière-grand-père, qui s'appelle Malke Haido, qui, en fait, va prendre la direction des opérations dans une des places fortes dont je vous ai parlé, qui est Psorino. Donc, c'est lui qui va diriger les combats. Lui-même vient d'un petit village qui est à 2 kilomètres, qui s'appelle Sare ou Gaweto, et ils sont venus pour protéger le... Bon, pour se réfugier et pour diriger les opérations de défense à Psorino. En venant à Psorino, ils ont même expulsé les forces de gendarmerie qui étaient dans le village, une 50aine d'hommes, et ils ont pris leurs fusils. Et ils ont sorti manu militari les gendarmes. Et donc, à ce moment-là, les tribus kurdes aux alentours, dès qu'elles ont su qu'elles avaient un outillage performant, des armes et des fusils, n'ont pas osé les attaquer.
Est-ce que cette histoire familiale a été écrite quelque part ?
Oui, justement, il y a eu quelques... Mais par des auteurs syriaques qui ont écrit une sorte de mémorial où quelques épisodes ont été relatés.
Est-ce qu'il ne serait pas du devoir de chaque syriaque, dans sa famille, ceux qui vivent dans la diaspora notamment, d'écrire cette histoire et de mettre sur papier cette mémoire familiale ?
Ben, le travail a été en partie fait, en fonction, je veux dire... Notamment, on retrouve des extraits de mémoire collective, développés de mémoire orale, dans l'ouvrage écrit par David Gant, qui propose des éléments de mémoire collective qui n'ont pas d'équivalent pour tous les événements de 1915. Parce que là, cette mémoire a pu se transmettre. Alors que pour d'autres régions, notamment pour les populations arméniennes, cette mémoire n'a pas pu se constituer puisque, justement, les personnes ont été exterminées de leur localité.
Yılmaz Turan, je vous remercie infiniment d'être venu jusqu'au micro de Chrétien d'Orient ce dimanche matin.
C'est moi qui vous remercie.
Merci. Pour évoquer la question du Saïfo des Syriacs, donc dans les événements très troublés des années 1915. Je remercie aussi Marie-Laure Ciboulet, Didier Pinault et Philippe Palares à la réalisation de cette émission. Émission que vous pouvez retrouver en balado-diffusion sur le site internet de France Culture, Chrétien d'Orient avec Sébastien de Courtois. Nous retrouvons maintenant le service protestant avec Michel Schaeffer. Merci.